Bonjour, c'est Pascal Solière et c'est l'épisode 28 de ITcast du 11 mars 2016. Aujourd'hui, Arnaud et Stanislas sont en ligne pour un rapide tour de l'actualité. Actualité très éclectique aujourd'hui puisqu'on aura du Linux, encore du Linux, mais aussi du Java, du Windows 10, de l'Intune, de l'Azure Stack, du Dynamics et pour finir du Skype for Business, sans oublier un petit mot sur les Tech Days Online de la semaine prochaine. Allez, tout de suite, les news. Bonjour, on est vendredi 11 mars 2016, je suis en ligne avec Stanislas et Arnaud, bonjour tous les deux.
Salut Pascal, salut Stan.
Bonjour Arnaud, bonjour Pascal.
Vous allez bien ?
Ça va.
Yes.
En ce moment, on est un petit peu occupé avec la préparation des Tech Days Online dont vous avez certainement entendu parler, donc on va faire un petit épisode rapide, un petit tour d'horizon des actualités de ces deux dernières semaines. Et puis on va commencer dans le vif du sujet avec des sujets qui concernent un petit peu l'ouverture de Microsoft à d'autres univers qu'on n'avait pas l'habitude jusqu'à il y a quelques années de fréquenter. Et on va commencer tout de suite avec une annonce qui a beaucoup d'importance, qui a été annoncée cette semaine, qui concerne SQL Server. Alors, autant cette information est très importante, puisqu'on a annoncé SQL Server sur Linux, dans un moment qu'on ne peut pas prédire absolument, mais c'est pas tout de suite quoi, ça va être je sais pas si on a annoncé un délai d'ailleurs.
2017.
Donc autant c'est important, autant on n'a pas grand chose à en dire puisque en fait on n'en sait pas tellement plus que voilà, on va sortir un SQL Server pour Linux. Alors on peut toujours débattre des raisons qui ont fait choisir ce choix là, mais on n'a pas de beaucoup plus d'informations que ça. Je ne sais pas si vous voulez en dire quelque chose, en commenter ou...
Non.
Non, hein. Bon.
Non, bah, l'idée, c'est clairement de faire plus de choix à nos clients. Hein. S'ils aiment SQL, c'est étendre l'amour, y compris sur Linux, hein, tout simplement.
Voilà, il est dit qu'il y aura le support des bases de stretch, c'est-à-dire qu'on pourra étendre des bases de données depuis un serveur SQL vers un autre serveur SQL qui sera sur Linux, alors que le premier était sous Windows peut-être. Des scénarios hybrides avec du cloud et du on-premise, bon ben voilà. Je sais pas si...
Ouais, je pense que ça va dans une optique, au-delà de l'amour, Arnaud aime beaucoup l'amour, mais au-delà d'une optique purement effectivement de... d'amour, une optique clairement commerciale aussi, c'est de s'ouvrir sur un marché complémentaire, celui du marché des serveurs sous Windows. Et puis voilà quoi. Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en simultané, ce qui est passé un petit peu à côté dans la presse, mais c'est vraiment, ça date de cette semaine, c'est également que on cherche à gagner des parts de marché aussi vis-à-vis de nos concurrents comme Oracle. Et que en gros, on est en train de proposer des offres de migration d'Oracle à destination d'SQL Server 2016, avec des propositions de training gratuits et plus, à mon avis, des accords assez intéressants du point de vue commercial. Donc il y a un article que tu mettras, Pascal, un lien qui détaillera un petit peu tout ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'étendre le marché de SQL Server et d'aller encore plus loin.
De façon connexe, en même temps, Microsoft France a publié une annonce pour un poste. On recherche un spécialiste, un expert Linux chez Microsoft France. Et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc c'est pas un poste forcément très technique, mais on recherche quelqu'un de très expert en Linux pour pouvoir discuter avec nos clients qui ont des environnements hétérogènes. Et le poste exactement, c'est un Technology Solution Professional, un TSP open source.
C'est-à-dire la traduction dans le langage commun, un avant-vente.
Un avant-vente, oui, tout à fait. toute la description du poste très détaillée sera à votre disposition. Toujours dans l'optique de l'ouverture, une annonce également qui a été faite à un événement, Arnaud, qui s'appelle le OCP 2016.
Et oui, donc l'événement pour Open Compute, donc on sait qu'on contribue quand même pas mal au monde du data center avec plein de spécifications qu'on publie dans le monde d'Open Compute. L'année dernière, on avait annoncé le SAI, le Switch Abstraction Layer, qui permettait en fait de discuter avec différents périphériques, et on avait discuté de distribution Linux qu'on faisait. Et ben cette année, on le release en fait, cette distribution Linux, donc ce qu'on appelle Sonic.
Sega.
Et ben Sonic, en fait, ça y est, on le distribue, on peut le trouver sur Azure, GitHub.io/Sonic. Et puis, c'est non pas un jeu, mais c'est un Debian, un fork de Debian pour les routeurs et les switches. Donc, une entrée qui commence à se faire un peu sérieuse dans le monde du Software Defined Networking.
J'en profite, là, du coup. On parle de la fondation du groupe Open Compute, sur lequel, en fait, au-delà de ce fameux switch là qu'on vient de publier, ça fait déjà quelques années qu'on publie en fait des blueprints de nos empreintes, enfin des blueprints pardon, donc c'est-à-dire des plans de nos serveurs qu'on utilise dans Azure. Je parle des machines physiques. Donc Open Compute qui est dont l'origine est Facebook. Hein, il y a Google qui vient de s'y intéresser et qui a annoncé son intégration au groupe cette semaine. Ce qui est assez novateur, parce que jusqu'ici Google avait une mainmise assez secrète sur ses data centers et sur ses secrets de fabrication au niveau des machines et de comment ils organisaient leur data center et leur rack et leur réseau. Hein. Il semblerait que du coup, vu que pas mal de monde commence un petit peu à ouvrir entre guillemets ces secrets-là, qui de toute façon sont des secrets périssables, hein, parce que à la vitesse où évolue le data center, on n'est jamais, ce qu'on donne en général n'est jamais exactement ce qu'on implémente à 100%. Et donc là, Google vient de se rattacher effectivement à Open Compute. Ils l'ont annoncé également à Open Compute 2016.
Cool. Je pense qu'il y a pas mal de petits trucs intéressants qui vont aussi tomber la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on a ONS 2016. Donc ONS, c'est Open Networking Summit. Et puis, assez souvent, on a Marc Osinovitch qui va faire quelques petites interventions assez sympas pour discuter justement tout ce qui est chose de ce qu'on fait dans Azure en matière de networking. Donc on est sponsor de l'événement, il y aura peut-être quelques petites annonces assez sympatoches aussi à en retirer.
Cool. Donc comme c'est l'heure du café, Stanislas voulait nous parler de Java aussi.
Java bien, Java mine. c'est pareil, hein, dans la série de « on ne nous attendait pas là », et puis finalement, on est beaucoup plus ouvert que vous le pensiez. Microsoft a annoncé qu'elle fait partie désormais, qu'elle est membre de la Eclipse Foundation. Donc Eclipse, hein, pour je le rappelle, hein, c'est un IDE, on va dire, concurrent de Visual Studio et très apprécié dans le monde de Java notamment. Et donc ils ont une fondation avec différents sponsors derrière, partenaires, etc. Et bien désormais, donc on en fait également partie. Donc en gros, on va rejoindre cette communauté Linux et cette fondation en fait en tant que solution member. Et donc ça va nous permettre en fait de un petit peu mieux collaborer avec la communauté Eclipse. Là encore, on est sur une stratégie entre guillemets d'extension et d'ouverture. Hein. Je rappelle que derrière ce qu'on vend principalement, c'est une plateforme dédiée sur des applications qui s'appelle Azure. Et donc c'est de la ressource. Donc on est assez agnostique vis-à-vis de ce qui tourne en fait dessus. Donc l'idée, ça va être déjà on fait aujourd'hui, mais c'est de donner encore plus d'outils basés sur Eclipse pour les développeurs Eclipse et associés finalement à nos plateformes. Donc on va avoir ici, on va fournir un Azure Toolkit for Eclipse, un Java SDK également pour Azure. Et l'idée, c'est de pouvoir aider les utilisateurs ou tous les développeurs Eclipse à construire des applications cloud. On a également un plugin gratuit qui s'appelle Team Explorer Everywhere, qui, vous l'aurez compris, permet de se raccorder à nos solutions on va dire de gestion et de travail collaboratif sur la partie dev. Donc ça veut dire, avec ce plugin, d'accéder en fait à la suite complète des outils de source control, team service, et toutes les fonctions de, entre guillemets, de DevOps. On ne devrait pas dire des fonctions de DevOps, mais enfin des capacités ou des mécanismes DevOps qui sont disponibles dans Visual Studio et Team Service. Et ça, en fait, les développeurs Eclipse le verront directement au travers de leur IDE, qui est effectivement le Eclipse. Donc toutes ces différentes bouts de solutions et outils Microsoft pour Eclipse seront disponibles, maintenus et partagés au travers du Eclipse Marketplace. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme annonce? Donc plus spécifiquement sur les outils, donc on a ouvert en open source le plugin Eclipse qui s'appelle Team Explorer Everywhere, donc il est disponible aujourd'hui sur GitHub. On a également le support d'Azure IoT Suite dans Kura, et donc on va contribuer en fait dans Kura en fait au connecteur, au hub connecteur Azure IoT. Et ça permettra plus facilement de connecter des passerelles qui exécutent Kura. Enfin, je ne sais pas si on dit Kura ou Kura, c'est K-U-R-A, directement avec Azure IoT Suite. Et puis effectivement, on a également le support des Azure Java Web Apps directement dans le toolkit Azure pour Eclipse. Et donc ça va rendre un petit peu plus facile, entre guillemets, la capacité de prendre une application Web App Java et de la faire tourner en fait sur Azure en quelques secondes. Voilà. On a également un petit peu rafraîchi et mis à jour notre Azure Java Dev Center. Et puis, on a également ouvert un truc qui s'appelle le Java Tools Challenge. Et à travers de ça, en fait, on invite les développeurs Java en fait, à venir construire des applications et des extensions sur VSTS. Voilà. C'était un petit peu le résumé de ce qu'on a pu faire à conférence Eclipse, parce que c'était, on a annoncé tout ça, j'ai oublié de le dire au début, excusez-moi, à la EclipseCon. D'accord. Voilà, donc EclipseCon, donc on aura participé au keynote et on aura fait deux sessions à côté sur le sujet. Une qui était faite par d'ailleurs un de nos anciens collègues, c'était donc sur Azure IoT, et notre ancien collègue, bien entendu, vous le reconnaissez, hein, c'était Olivier Bloch. Donc lui, il a fait une session qui s'appelait The Internet of Unexpected Things. Et puis il y a eu une deuxième session qui s'appelait Integrating Different IDE with a Common Set of Developer Services. Et là, c'était des gens de l'équipe Visual Studio Team Service qui sont venus apporter un petit peu leur contribution à l'événement. Voilà. Donc je pense que tout ça sera disponible probablement en replay sur le site web de la conférence Eclipse, de la EclipseCon. Là encore, tous les liens suite sur le podcast de Pascal.
Ok. Chapitre cloud maintenant avec, vous vous rappelez sans doute qu'on a consacré deux épisodes récemment en janvier et février à Azure Stack, le futur Azure Stack qui est pour l'instant en Technical Preview 1. Avec Stanislas, on a tourné et publié une petite vidéo de 26 minutes, je crois, sur Azure Stack. Et donc Stanislas, dans cette vidéo, tu fais la démonstration complète de ce qu'on peut montrer aujourd'hui sur la Technical Preview 1 de Azure Stack. Donc voilà, c'est... En plus du son, vous avez maintenant l'image, la démo et tous les pointeurs.
Voilà. Et juste pour la partie Azure Stack et pour rebondir, on a également annoncé récemment que notre futur Dynamics AX ERP as a Service donc va être disponible dans, je crois, à peu près un petit peu moins de 180 pays, 179 si je ne dis pas de bêtises, worldwide. Donc c'est une offre, une solution as a service de ERP. Donc il va tourner donc effectivement sur notre data center. Et puis c'est la première fois en fait qu'on annonce, on dit ben ce Dynamics ERP il sera également disponible, vous pourrez également l'exécuter au sein de votre data center si vous le souhaitez. Et par contre, ce sera pas en fait entre guillemets un produit qu'on va installer comme ça sur un Windows Server ou un Linux, pourquoi pas. Ce sera une solution qui sera exécuté dans votre data center au-dessus en fait d'Azure Stack. Donc ça va nécessiter Azure Stack. Donc là, c'est vraiment la première fois qu'en fait on a un produit qui a été conçu pour tourner dans le cloud d'abord et principalement. Donc on est vraiment sur du cloud first ici. Et on se doute bien, comme Azure Stack en fait c'est le pendant de Azure technologiquement parlant, un sous-ensemble des services d'infrastructure et de PaaS. Et bien comme les systèmes de modèles sont les mêmes des deux côtés, les interfaces et les API sont les mêmes, il y a de grandes chances effectivement que dans un premier temps, en fait, on déploie à l'échelle dans le data center Azure, et ensuite, en fait, simplement, le modèle sera poussé naturellement en fait sur de l'Azure Stack. Et comme ça, ça évitera en fait d'avoir des distributions particulières qui sont différentes entre ce qui va tourner dans le data center et ce qui va tourner dans le cloud public. Donc c'est le premier produit vraiment qui va être vendu en tant que tel comme entre guillemets un nécessitant étant un surensemble entre guillemets au-dessus d'Azure Stack quoi.
Donc ça voudrait dire que c'est développé en mode PaaS.
Alors c'est non a priori enfin je pense que c'est pas forcément je sais pas si on a le détail exact encore je crois pas aujourd'hui non. Mais Azure Stack de toute façon ce sera du PaaS ou du IaaS mais tu peux tout à fait avoir un ensemble de ressources qui vont constituer en fait ton applicatif ERP. J'ai un applicatif ERP, il y a probablement des frontaux, il y a probablement du back-end sur de la base SQL, il y a probablement derrière de la segmentation et de différentes ressources, de l'équilibrage de charge. Et finalement, quand tu vois, là, je suis en train de te poser plein de ressources, donc il y a des chances, à mon avis, et je pense, on le verra rapidement, c'est que ce soit disponible en fait sous la forme d'un template ARM, d'un modèle, qu'on pourra du coup redéployer de manière inimpotente. Je pense plutôt là-dessus parce qu'en fait, ce truc-là, il va inclure plein de trucs en fait. Il va inclure a priori le nouvel AX d'après ce que j'ai pu comprendre. Il va utiliser de l'Azure SQL, du Power BI, de l'Office 35, du Dynamics CRM, de l'Azure Site, de l'Azure Disaster Recovery. Tu vois, donc en fait, il y a pas mal de technos qui vont être à mon avis utilisés. Et je pense qu'après, ça va être simplement modélisé pour être entre guillemets réapplicable sur un environnement sur site.
Super. Ok, pas d'autres nouvelles dans le cloud, Arnaud, non plus
Non, là, de ce qu'on a mentionné.
Passons à Windows. Et justement, Arnaud, je vais avoir besoin de toi pour confirmer mes dires à propos de la prochaine nouvelle qui concerne Windows Defender Advanced Threat Protection. Alors, ça fait beaucoup de mots pour un seul produit, hein, Windows.
Il manque 2016 R2 derrière. Non, je déconne.
Ça viendra. Donc, Windows Defender Advanced Threat Protection. Protection avancée contre les menaces ou protection contre les menaces avancées, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On avait déjà un truc qui s'appelait ATA, Advanced Threat Analytics, dont une fonction était d'aller analyser le trafic qui arrivait ou qui sortait des contrôleurs de domaine, hein, c'est bien ça Arnaud, pour détecter s'il n'y avait pas des comportements suspects et détecter donc des attaques potentielles sur l'infrastructure, hein, la colonne vertébrale du système d'information, à savoir l'Active Directory. C'est bien le principe, hein, je ne veux pas déformer le principe d'ATA, hein, Arnaud.
C'est exactement ça, Pascal.
Ok. Donc on va enrichir ce modèle-là. Donc imaginez que vous avez déjà cette solution-là. On va ajouter une couche par-dessus qui va être la détection des attaques, un petit peu de la même façon, avec le même principe intelligence dans le cloud, etc. Mais cette fois-ci au niveau des postes de travail. C'est-à-dire qu'on va inclure dans une future version de Windows 10 un composant qui va être...
Dans l'anti-malware qui est dans Windows 10, effectivement. Ouais.
Voilà, ce composant qui va participer à cette détection des attaques, mais cette fois-ci du côté des postes. En collaboration avec un service dans le cloud qui va apporter toute l'intelligence, qui va pouvoir faire la détection des comportements, etc.
Ouais, honnêtement, la robustesse et la facilité de déploiement du cloud, parce qu'il y avait déjà des choses qui pouvaient ressembler un tout petit peu à ça de manière embryonnaire on-premise, avec, on l'a connu, un System Center Endpoint Protection sur lequel il fallait déployer une infrastructure System Center on-prem. Bah, là, l'idée, c'est qu'en fait, on facilite tout ça incroyablement, puisque au lieu d'avoir une infra à déployer on-prem et s'occuper de toutes les thématiques qui y sont liées, comme le stockage, la base SQL, etc., bah, là, on va avoir un service qui va être dans le cloud, donc toutes ces informations-là vont être automatiquement gérées par le service, par Microsoft, et puis on va rajouter des niveaux d'intelligence qui n'ont jamais été atteints par ces produits jusque-là, c'est-à-dire que, bah, effectivement, on va pouvoir détecter des patterns classiques sur des machines et sur un ensemble de machines. Du coup, faire des statistiques globales sur l'ensemble des machines de ce qu'on a pu observer comme ransomware, backdoor, comme exploit, comme trojan, enfin toutes ces petites choses-là, faire des statistiques globales sur l'ensemble du parc très facilement. Et puis aussi, ben on a toute l'analyse des adresses IP qui peuvent exister par nos services de monitoring sur Internet. Donc ben, on sait qu'il y a un certain nombre d'adresses IP qui, à un instant donné, sont utilisé comme command and control pour des botnets, comme des centres où on trouve plein de malware, etc. Et bien, du coup, on va matcher en fait les adresses IP qui sont utilisées par les machines avec des communications sortantes vers ces endroits-là, en fait. Donc, on aura la possibilité d'avoir des informations vraiment importantes recoupées à une vision globale sur ce qui se passe dans le système d'information.
Donc, a priori, c'est un service qui s'adressera aux entreprises. C'est pas encore détaillé, mais il est probable que ça concerne les éditions plutôt entreprises ou professionnelles de Windows 10. Et ça viendra donc dans une version ultérieure à venir.
Ouais, on n'a pas donné de date. Ouais.
Donc pas mal d'efforts également dans le domaine de la sécurité, en plus du domaine de l'ouverture. C'est plutôt pas mal cette année ce qui se passe. Concernant Windows 10 toujours, vous avez certainement entendu parler du Raspberry Pi 3. Donc la troisième version du Raspberry Pi, qui est super intéressante parce que y a trois grandes nouveautés dans ce Raspberry Pi 3. C'est le Wi-Fi intégré, le Bluetooth intégré et un processeur ARM 64 bits plus performant que les précédents. Et toujours 1 giga de RAM, je crois. Donc on a annoncé également dans la foulée que Windows 10 IoT Core supporter maintenant le Raspberry Pi 3, donc on a sorti une version spécifique pour le Raspberry Pi 3, pour l'instant temporaire, hein, puisqu'on n'a pas encore aujourd'hui à ce jour le support, le driver en fait pour le Wi-Fi et le Bluetooth, mais ça viendra incessamment. Stan, toujours à propos de Windows 10, tu me disais que on avait des nouvelles machines virtuelles Windows 10 prêtes à l'emploi qui étaient disponibles.
Oui, exactement. En fait, on va préciser que en fait on mettait déjà à disposition des développeurs des VM Windows 10 intégrant les outils de développement. Là, on vient de faire une grosse mise à jour de ces machines virtuelles pour les développeurs. Du coup, tu vois, le développeur, il n'a pas du coup à prendre une machine, à télécharger. Elle est obsolète parce qu'elle date de juillet dernier, donc avec pas les mêmes niveaux d'API, pas les mêmes versions de patch, etc., etc. Donc là, on vient de faire une grosse mise à jour de tout ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir très facilement, depuis le Windows Dev Center, télécharger en gros une machine virtuelle avec tout ce qui a besoin dessus pour pouvoir développer rapidement. Donc on est entre guillemets assez ouvert là-dessus en termes de format également, parce que on est plutôt sur des postes de développeurs, non pas sur des solutions de virtualisation côté serveur. Donc on va avoir ces machines virtuelles Windows 10 de développement disponible en fait sous format VMware, VMDK, sous format Hyper-V pour ceux qui sont effectivement sur du Windows 8 ou ultérieur en édition entreprise pour avoir Hyper-V, du VirtualBox bien entendu, donc là du coup ça va être PC, Mac et autres, et du parallèle Mac si je ne dis pas de bêtises. Donc ces quatre machines virtuelles, en fait, on peut les télécharger. Et qu'est-ce qu'elles vont contenir à l'intérieur ? Eh bien, donc c'est une build Windows 10 Enterprise en version 15.11. Et c'est une version d'Eval qui est valable 60 jours et qui inclut une copie complète en fait, de tout ce qui est donc Visual Studio 2015, édition communautaire, update 1. Tu as également dans le SDK Windows Developer en version, alors c'est la build 10.586. On a également ajouté dedans le Microsoft Azure SDK pour .NET en build 2.8.2. Et puis également une collection de templates, de samples pour les Universal Windows Platform, donc WP. Ensuite, pour tous les développeurs qui regardent comment réutiliser le code qu'ils ont déjà écrit sur pour leurs applications iOS, en fait, dans chacune des VM, on a également le bridge Windows pour iOS, dans sa version 0.1.1.6.0.3.0.4, et un ensemble également de samples, d'exemples, pour justement utiliser ce Windows Bridge for iOS.
Last but not least, et en fait, c'est, du coup, ça rebondit bien avec l'actualité précédente dont tu as discuté, qui est le Raspberry Pi.
Ouais.
Chaque VM, en fait, intègre également le SDK, en fait, le Windows IoT Core SDK for Raspberry Pi 2. Alors là, pas 3, hein, mais 2. Et puis également, là encore, tu as des exemples, des templates de projets Windows IoT Core. Voilà. Alors attention quand même, hein, avant de cliquer furieusement sur le bouton download, en fonction de votre situation d'Internet, c'est-à-dire de votre bande passante, etc. Quand vous cliquez sur le bouton download, c'est des gros fichiers, d'accord ? Donc,
je vois ça, oui.
Parce que, oui, on est, enfin, le plus petit des fichiers, en fait, il fait 18,3 gigas. Donc, c'est pas neutre non plus. Hein. Donc, ça, c'est pour les formats, on va dire, Hyper-V qui vont tourner sur Windows 8.1, Windows 10 Pro ou Entreprise. Et puis, bien entendu, Windows Server. Hein. Et puis, les éditions pour Parallel et VirtualBox, c'est à peu près 19 gigas, 18,9, 19, ça dépend. Et la plus grosse des versions, c'est la version VMware qui est 20 gigas et des brouettes. Donc attention, à la bande passante utilisée, c'est pas neutre comme chose, quoi. Voilà. Alors, du coup, là, tu vas me dire, ouais, mais ça, c'est quand même plutôt orienté des développeurs un petit peu moins IT, et on n'a pas forcément besoin d'avoir au total de 20 gigas pour finalement plein d'outils qu'on n'utilise pas forcément. Donc, je vous rassure, il n'y a pas que cette version d'Eval qu'on peut télécharger. Donc, ça, c'est une Eval 60 jours, je l'ai dit tout à l'heure. Il existe toujours la version 90 jours de Windows Entreprise qui est disponible via le TechNet Evaluation Center. Et là, du coup, c'est un petit peu moins gros parce que là, ça fait 3,6 gigas pour la version 64 bits. Donc après, c'est un petit peu un choix de ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Et puis voilà. Ah, si, intéressant également pour les IT, sur la partie image. On a également une image qui intègre tout un outil de tous les outils de déploiement et de management, genre SCCM, Endpoint Protection, etc., en version 15.11, et tout ce qui est également Windows 10, Deployment and Management, LabKit. Et là, par contre, on a une image qui fait 26 gigas, parce qu'elle intègre là aussi plein d'outils.
Cool. Donc, tout pour essayer Windows 10 dans toutes les conditions, donc c'est très bien. Un sujet connexe, de façon connexe à Windows 10, j'ai remonté au niveau de Microsoft Intune, donc le MDM. On vient de sortir un guide de déploiement des conditions des accès conditionnels, pardon, pour l'accès à la messagerie. Je m'explique. On a la possibilité, grâce à Intune, de configurer un accès conditionnel aux applications, aux services, etc., et notamment aux services de messagerie. Soit Exchange Online, soit Exchange sur site. C'est un process qui est bien documenté dans ce nouveau document qui vous explique exactement comment utiliser donc, les Conditional Access Policies, les Compliance Policies. Il vous explique même comment monter le connecteur avec votre Exchange sur site, le cas échéant, si vous avez un Exchange sur votre réseau, pour mettre en œuvre tout ce qui est Conditional Access, donc accès conditionnel. Alors l'accès conditionnel, hein, je le rappelle, le principe, c'est de permettre d'accéder à sa messagerie depuis n'importe quel appareil sous certaines conditions. Les conditions, ça peut être simplement l'enregistrement dans le MDM, l'enregistrement dans Azure Active Directory ou au-delà de ça, par exemple avec Windows 10, ça peut être la conformité avec une attestation de santé approuvée par le service de cloud qui va vérifier les attestations de santé de Windows 10. Ça peut être ce genre de choses-là. Donc très intéressant d'avoir une doc vraiment pour les IT, pour la mise en œuvre de ces accès conditionnels à la messagerie. Je terminerai avec une nouvelle qui concerne Skype. On n'en parle pas souvent de notre ami Skype. Vous avez certainement entendu parler de Surface Hub. Alors Surface Hub, ce sont des PC inclus dans des écrans, des monstrueux écrans, monstrueusement gros, monstrueusement chers. Il y a deux
non, c'est pas monstrueux, je suis pas d'accord. C'est juste gros et cher. Ouais, c'est cool.
Donc le petit, entre guillemets, fait 55 pouces et 9 000 $. Et le gros fait 84 pouces. C'est vrai que ça doit être cool quand même, 84 pouces en 4K. Et 22 000 $.
Donc ouais, c'est pas... on vit qu'une fois, faut se faire plaisir les mecs.
Donc ça sert à quoi ces trucs-là? Ça sert à être disposé dans des salles de réunion de façon à collaborer avec tous les outils à notre disposition, dont Skype, Skype for Business en fait, dans les coulisses, avec d'autres salles de réunion, d'autres personnes, etc. Et c'est vraiment très pratique. Simplement, ce qu'on a annoncé là dans un article qui concerne des nouveautés concernant Skype, Skype et puis ces interconnexions avec des PBX dans le cloud, etc., ce genre de choses-là, il y a une petite annonce à l'intérieur de cet article qui concerne la disponibilité, donc disponibilité future d'un projet qui s'appelle Project Rigel, R-I-G-E-L, et qui est en fait la version de Skype for Business qui est incluse aujourd'hui dans Surface Hub. Donc vous allez pouvoir utiliser les mêmes genres de fonctionnalités qu'il y a dans Surface Hub avec ce fameux Skype Project Rigel qui sera disponible un jour, bientôt. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour faire fonctionner ce genre de choses-là, il faut du matériel. Et donc on est en train de travailler en collaboration avec des partenaires fournisseurs de matériel comme Polycom, Logitech... Polycom et Logitech, oui. Donc j'imagine que ce sont des matériels de type soit écran tactile, soit caméra, ce genre de choses-là. Voilà, donc à voir quand ça sortira de façon plus économique qu'un Surface Hub.
Cool.
Voilà. Est-ce que on a fait le tour de ce qu'on avait noté dans nos notes de l'épisode? Est-ce que vous pensez à autre chose?
C'est tout bon pour moi.
C'est tout bon.
Camoulox.
Donc il ne reste plus qu'à vous dire que la semaine prochaine, il y a un événement de lancement de ce qu'on appelle les Tech Days Online. Je ne sais pas quel nom. Oui, on parle de Tech Days Online. Donc vous allez voir, surveillez un petit peu vos Twitter, vos messageries et compagnie, vous allez voir déferler une vague de vidéos, d'annonces, de petites choses comme ça, et notamment un événement en live qui aura lieu jeudi 16.
Je crois que c'était un mercredi.
Mercredi 16. qui aura lieu.
Ils sont venus le jeudi, il n'y avait personne.
Qui sera suivi par une belle soirée, il semblerait
qu'il y ait une soirée le jeudi 16, oui.
Dans Paris.
Pour les chanceux qui seront présents.
Le mercredi 16.
Mercredi 16, et jeudi 17, il y a un autre événement pour nos amis MVP.
Précisons quand même que pour la journée du 16, qui est donc le mercredi, il y aura plein de gens qui sont des gens, pas de Microsoft, il y aura des gens de Docker, il y aura des gens de GitHub, il y aura des gens de Alterway, il y aura des personnes également de...
Xamarin.
De F5 aussi.
Et de F5 Networks. Donc il y aura du monde. Il y aura du monde, ce sera un peu changeant par rapport à ce que vous avez déjà pu connaître si vous êtes déjà allé sur une conférence chez Microsoft à Paris.
Donc ça sera l'après-midi et ça sera diffusé en direct... quelque part on the web.
Cool.
Eh bien, Stanislas, Arnaud, merci beaucoup pour ce vendredi matin d'avoir rejoint ce podcast. On va se dire au revoir. On dit à dans deux semaines, je l'espère, à tout le monde.
Yes.
Et puis bon week-end.
Bon week-end.
Allez, salut, merci.